France Inter.
18h, le journal. Bonsoir Céline Asselot.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
À la une du 18-20 et du premier journal de la soirée, un armateur qui vient bousculer le paysage médiatique français.
Oui, il s'appelle Rodolphe Saadé, il va racheter la première chaîne d'info de France, BFM TV. Un milliardaire qui ne s'intéressait pas aux médias il y a encore quelques années. Son parcours, ses ambitions au début de ce journal.
Et désormais une nouvelle rivalité entre BFM et CNews, deux chaînes d'information. On va en reparler dans quelques minutes avec l'invité de ce journal, Philippe qui dirige le cabinet d'études des médias NPA Conseil.
Dans l'actualité également en Russie, les électeurs appelés aux urnes et l'armée qui frappe très durement la ville d'Odessa. On prendra la direction de l'Ukraine. On ira aussi à Bruxelles où les 27 valident le devoir de vigilance des entreprises appelées à être plus regardantes sur les conditions de travail au sein de leurs sous-traitants. Direction aussi la Seine-Saint-Denis où des enseignants ont été convoqués pour avoir dénoncé la vétusté de leur lycée dans une vidéo qui cartonne sur TikTok. Et puis le choix culture du vendredi nous emmène à Manchester, la ville la plus rock d'Angleterre.
Et après votre journal Céline, une semaine en France, 20 ans jour pour jour, après le vote de la loi de 2004 contre les signes religieux ostensibles à l'école, préserver la laïcité, c'est le titre du livre de notre invité Yannis Schröder, l'un des membres du Conseil des sages de la laïcité. Et puis le téléphone sonne à partir de 19h20 sur la journée mondiale du sommeil. C'est important, cette journée c'est aujourd'hui. Depuis 4 ans, nous avons perdu 16 minutes de sommeil. Et bien avec nos invités, on va s'intéresser aussi et surtout peut-être à la qualité de notre sommeil. Vos questions, vos témoignages sur votre sommeil, le standard est ouvert. 01 45 24 7000. Voilà seulement 2 ans que Rodolphe Saadé est entré dans le monde des médias.
Et pourtant le voilà déjà sur le point de devenir l'une des figures majeures du paysage médiatique français grâce au rachat de la chaîne BFM TV et de la radio RMC. Bonsoir Maxime Debs.
Bonsoir.
On va rappeler que Rodolphe Saadé a fait fortune dans l'exploitation commerciale des navires. Son groupe CMA-CGM est le 3e armateur mondial. Et il a créé la surprise ce matin en annonçant le rachat d'Altice Média, le groupe de Patrick Drahi, pour la somme d'1,5 milliard d'euros, une étape majeure pour celui qui est en train de construire un véritable empire médiatique.
Oui, il y avait dans cet empire déjà plusieurs titres de presse écrite. La Provence, rachetée au nez à la barbe de Xavier Niel. La Tribune, relancée à l'automne dernier pour séduire les anciens lecteurs du JDD tombés dans l'escarcelle de Vincent Bolloré. Il y a donc maintenant l'audiovisuel, RMC et surtout BFM, l'opportunité entre guillemets d'un investissement dans la télé, la radio qui chatouillait depuis longtemps l'homme d'affaires franco-libanais.
Je regarde tout. Le sujet m'intéresse, donc je regarde.
Rodolphe Saadé, qui en novembre 2022 avait accordé une rare interview à France Inter, au micro de Léa Salamé, le milliardaire venait alors de passer à côté du rachat d'M6. Jolie prise donc aujourd'hui avec BFM pour ce géant des mers, Rodolphe Saadé, qui tire aujourd'hui le gros de sa fortune de ses porte-conteneurs que lui a laissé son père, mais qui se diversifie chaque jour un peu plus, qui ne s'interdit rien quand on lui pose la question.
Alors, où vous arrêterez-vous ?
Aujourd'hui, tant que j'ai les moyens financiers de le faire, je vais continuer.
Des moyens qui font rêver, fantasmer jusqu'aux supporters de foot de l'OM sur la Canebière. Et si Rodolphe Saadé, premier employeur de la cité phocéenne, venait à racheter l'Olympique de Marseille ? Lui assure que ce n'est pas d'actualité, mais le milliardaire adore surprendre. En mettant la main sur BFM aujourd'hui, il en a encore fait la démonstration.
Merci Maxime Debs, service économique et social de France Inter.
Bonsoir Philippe Bailly.
Bonsoir.
Vous dirigez le cabinet d'études des médias NPA Conseil. Alors d'un côté, CNews de Vincent Bolloré avec ses polémistes classés très à droite. De l'autre, la future BFM TV selon Rodolphe Saadé. Avec quelles conséquences envisageables sur les lignes éditoriales ?
Elles sont difficiles à prévoir aujourd'hui. BFM TV a historiquement une ligne différente de celle de CNews. Aligner le contenu de BFM TV sur celui de CNews, ça serait prendre un double risque pour Rodolphe Saadé, celui de d'une certaine manière de l'effet Canada Dry. On préfère toujours l'original à la copie. Mmh. Et puis le fait de se partager un auditoire, celui de CNews, mais de pas aller au-delà, alors que la concurrence est déjà très forte sur le terrain des chaînes d'infos, puisqu'il y a quatre chaînes d'infos. Quatre chaînes d'infos, ça permet d'aller jusqu'à 8 points de l'audience totale de la télé, à condition que chacun reste dans son couloir, en quelque sorte, et ne se mette pas simplement à copier les recettes de son voisin.
Donc Rodolphe Saadé, qui rencontre régulièrement Emmanuel Macron, va conforter avec BFM Télé cette chaîne d'accompagnement du pouvoir, alors que CNews est souvent critique, et même frontalement.
Alors moi, je ne ferai pas cette lecture politique, je mets plutôt un regard plus économique ou industriel. Rodolphe Saadé, vous l'avez rappelé, il y a 2 ans, a cherché à racheter M6. Il en est d'ailleurs maintenant actionnaire à 10%, et donc il a montré un appétit pour les médias en général, pour l'audiovisuel en particulier. M6, du fait de sa reconduction par l'ARCOM et sans entrer dans les détails juridiques, aujourd'hui ne peut plus être vendu, en tout cas pas avant 4 ou 5 ans. Donc il y avait ces chaînes d'Altis qui étaient, elles, sur le marché, et aujourd'hui il avance conformément là aussi à ce qu'il disait à Léa Salamé dans l'interview que vous avez diffusée. Il a un soif ou une volonté de se développer dans les médias, et pour acheter, il faut qu'il y ait un vendeur, donc il y a un vendeur aujourd'hui.
Ouais, il va vite, hein, ça a commencé il y a 2 ans. L'ARCOM, l'autorité de régulation, est en train de procéder à un appel d'offres pour l'attribution des fréquences de la TNT, CNews et BFM sont concernés. Est-ce que la commission d'enquête parlementaire qui auditionne en ce moment les écarts de conduite de CNews, est-ce que l'ARCOM et cette commission d'enquête pourraient jouer un vilain tour au groupe de Vincent Bolloré?
Alors, je sais pas, très honnêtement, mais c'est un point de vue purement personnel, si le fait de charger la barque, pour parler trivialement, du côté de la commission d'enquête, est le moyen le plus efficace d'éviter qu'elle conserve son autorisation à CNews, parce que c'est une autorité indépendante, l'ARCOM, et qu'à un moment, ce qui apparaît comme des pressions sur une autorité indépendante, ça peut parfois être contre-productif. En tout cas, juste pour rester sur l'ARCOM, et s'agissant de l'opération qui a été annoncée ce matin, avant qu'elle puisse prendre corps, il va falloir que l'ARCOM l'autorise, en vertu de la loi de 1986. Et là, ça crée un calendrier un peu spécial et extrêmement serré, parce qu'il faut que l'autorisation soit donnée suffisamment vite pour qu'au moment où l'ARCOM auditionnera les candidats, pour les nouvelles fréquences de la TNT, ça soit bien Rodolphe Saadé et son équipe qui se présente pour le compte de BFM TV, et pas Arthur Dreyfus, le patron d'Altice. Il faut que la session soit bouclée.
Et donc ça annonce une signature définitive assez rapide, parce que la loi interdira à Altice de vendre la chaîne durant les 5 années qui suivront la date d'attribution des nouvelles fréquences d'autorisation. Merci beaucoup Philippe Bailly, à la tête de ce cabinet d'études des médias NPA Conseil.
L'actualité ce soir, c'est aussi Vladimir Poutine qui vote pour lui-même. La télévision russe a montré tout à l'heure le maître du Kremlin en train de participer à l'élection présidentielle, un scrutin qui ressemble à un plébiscite, mais qui a tout de même été marqué par des dégradations de bureaux de vote, des jets de cocktails Molotov, des protestations isolées qui ont donné lieu à 13 arrestations selon les autorités. Et dans ce contexte électoral, la Russie poursuit son offensive. La journée a été particulièrement meurtrière à Odessa, c'est la grande ville portuaire du sud de l'Ukraine, où 16 personnes ont été tuées, plus de 70 blessés selon un décompte provisoire. Camille Manière, vous êtes l'envoyé spécial de France Inter en Ukraine. Volodymyr Zelensky dénonce une attaque ignoble sur une ville qui est depuis le début de la guerre une cible privilégié des Russes.
Depuis le début de la semaine, Odessa est attaquée chaque nuit par des drones russes, raconte Anna Chelest, experte en sécurité qui vit et travaille dans la ville.
C'est l'attaque la plus meurtrière depuis le début de la guerre ici. Et avec le second missile, ils ont clairement visé les équipes de secours qui intervenaient sur les lieux de la première attaque.
Ce mode opératoire a particulièrement choqué les habitants d'Odessa, déjà frappés ce mois-ci par 2 bombardements qui ont fait en tout 17 morts, dont au moins 5 enfants. À chaque fois, les Russes disent viser des cibles militaires, des convois ou des dépôts de munitions, mais ce sont des zones résidentielles qui sont touchées. Et ce n'est pas un hasard, selon Natalia Goumeniouk, porte-parole des forces armées ukrainiennes pour la région sud.
Depuis le début de la guerre, nos ennemis essayent d'imposer ce narratif selon lequel Odessa est une ville russe. C'est pour ça qu'ils font pression sur les Odessites avec ces bombardements. Ils veulent les pousser à exiger des négociations de paix pour arrêter ça.
Mais cette fois encore, Odessa et ses habitants répondent par la détermination et la résilience. En à peine une heure ce matin, des centaines de volontaires ont répondu aux appels à donner son sang pour les victimes.
Camille Magnard, depuis l'Ukraine pour France Inter. Face à l'offensive qui se poursuit, l'Europe tente de parler d'une seule voix, opération réconciliation tout à l'heure entre Emmanuel Macron et Olaf Scholz. On sait que les propos du président français sur l'envoi potentiel de troupes au sol avaient beaucoup déplu au chancelier allemand. Une réunion s'est tenue à Berlin, en présence également du premier ministre polonais Donald Tusk. Tous les trois font part de leur unité, annoncent une coalition sur les armes à longue portée. On sera en direct de Berlin tout à l'heure dans le journal de 19h. À Gaza, le premier bateau d'aide humanitaire est arrivé. La marchandise envoyée par une ONG espagnole commence à être déchargée. Toute la question maintenant sera celle de son acheminement à la population. Hier soir, une distribution alimentaire a une nouvelle fois viré au drame. 20 personnes ont été tuées, 150 blessées, selon le Hamas qui accuse l'armée israélienne d'avoir ouvert le feu. Israël assure que ce sont des Palestiniens armés qui ont tiré sur la foule.
La nouvelle politique agricole commune s'annonce beaucoup moins verte.
Et oui, Bruxelles a décidé d'alléger considérablement les critères environnementaux demandés aux agriculteurs en échange des aides européennes sur les jachères, sur la rotation des cultures, toutes ces règles qui avaient été au cœur de la mobilisation agricole de ces derniers mois. Ce sont des propositions de la Commission européenne qui doivent maintenant être négociées par les États membres et par les eurodéputés. Les 27 qui, par ailleurs, ont validé après de longues tractations la création d'un devoir de vigilance pour les entreprises. Bonsoir Pierre Benazé.
Bonsoir.
Vous êtes à Bruxelles pour France Inter. Alors pour avoir accès au marché européen, les entreprises devront respecter toutes les obligations en matière sociale, en matière environnementale ainsi que sur les droits de l'homme.
Oui, la responsabilité sociétale des entreprises devient mondiale avec cette directive européenne devoir de vigilance. Les entreprises sont rendues responsables de toutes les pratiques illégales de leurs sous-traitants, où qu'ils soient à travers le monde. Ça va du travail des enfants, au travail forcé, en passant par la déforestation ou la pollution. On pense par exemple au travail forcé des Ouïghours en Chine, mais aussi aux conditions de travail du Rana Plaza au Bangladesh en 2013, où sont mortes 1100 personnes qui travaillaient pour de grandes marques mondiales du textile. Les entreprises seront responsables pour leurs filiales, leurs sous-traitants, leurs fournisseurs. Il pourrait y avoir des amendes jusqu'à 5% de leur chiffre d'affaires mondial. Autre nouveauté, les victimes pourront attaquer les entreprises devant la justice européenne. Un plan de transition climatique sera obligatoire pour toutes les entreprises de plus de 500 salariés. Toutes les autres obligations s'appliqueront seulement aux entreprises de plus de 1000 salariés et 450 millions d'euros de chiffre d'affaires mondial. C'est deux fois plus élevé que le seuil initial, mais il a été relevé à l'instigation de la France et de l'Allemagne.
Pierre Benazé, merci, correspondant de France Inter à Bruxelles. Et toujours concernant l'Europe et les élections qui auront lieu le 9 juin prochain, le parti radical de gauche et ses alliés ont présenté leur liste. Ce matin, c'est la sixième liste à gauche pour le scrutin européen. Son nom, Europe Territoire Écologie, son slogan pour une Europe qui nous protège. Et sa particularité, Claire Flauchel, c'est d'être la seule liste à défendre l'union de gauche. C'est en tout cas ce que dit le patron du PRG, Guillaume Lacroix.
Anti-Nupes depuis toujours, le président du Parti radical de gauche, Guillaume Lacroix, affirme que sa liste est la seule liste de rassemblement progressiste.
Nous sommes les seuls à avoir une cohérence politique. Nous n'avons pas été dans la Nupes en 2022. Moi, ce que j'observe, c'est que ceux qui s'affaiblissent, c'est eux-mêmes. Quand la liste de Glucksmann se soustrait du PRG, quand la liste des Verts se soustrait des régionalistes, quand le Parti communiste décide d'y aller tout seul, c'est eux qui créent les soustractions. Nous, nous sommes la seule liste qui crée de l'addition.
Cette liste, elle réunit donc le PRG, le Parti régionaliste Région et Peuple solidaire, le Mouvement des progressistes, le Mouvement des citoyens, le Collectif des sociodémocrates conservateurs et Volt France. On peut donc y retrouver des ex-socialistes ou des déçus de la Macronie. Guillaume Lacroix veut croire qu'il y a un espace politique à prendre, que la gauche n'est pas réductible à celle qui s'est réfugiée en juin 2022 dans les bras de la France insoumise, dit-il.
C'est la gauche dite de gouvernement, la gauche capable de rassembler, la gauche humaniste. Finalement, une gauche qu'on entend moins, mais dont on a besoin.
Europe, territoire, écologie a aussi pour ambition, comme son nom l'indique, de mieux représenter les territoires. Une liste qui risque d'éparpiller encore plus les voix à gauche, même si pour l'instant, elle est créditée de 0,5 à 1% des intentions de vote.
Claire Flochel du service politique de France Inter. Un succès pour le groupe français de défense Naval Group, choisi par les Pays-Bas pour construire 4 sous-marins, un projet de plusieurs milliards d'euros. Il s'agit du fameux modèle Barracuda, dont le groupe avait vendu 12 exemplaires à l'Australie il y a quelques années, avant que la commande ne soit annulée, ce qui avait entraîné une crise diplomatique.
À la une ce soir également, 4 enseignants rappelés à l'ordre pour être apparus dans une vidéo TikTok.
Oui, une vidéo où ils dénonçaient avec leurs élèves leurs conditions d'enseignement et la vétusté des locaux du lycée Blaise Sandrard de Sevran en Seine-Saint-Denis. Une vidéo qui a accumulé plus de 2 millions de vues sur le réseau social. Pas vraiment du goût de l'Académie de Créteil qui les a convoqués ce matin pour un entretien individuel. Bonsoir Océane Zitouni.
Bonsoir Céline, bonsoir à tous.
Les professeurs comme les élèves dénoncent ce soir une manœuvre d'intimidation sur fond d'injustice.
Au milieu des élèves, Clément Bernard, enseignant et représentant du syndicat SNES-FSU de son lycée, est venu soutenir ses collègues. Voici ce qui leur est reproché.
D'abord, une question de droit à l'image des élèves. Deuxième chose qu'on leur reproche, c'est un éventuel manquement à leur devoir de réserve. Sauf que mes collègues n'ont fait que relater des faits propres à leur expérience dans le cadre d'une grève. C'est tout à fait dans leur droit.
Sortant du bureau dans lequel elle était convoquée, Mélissa Pandor, enseignante de français, s'est défendue sur ces deux points.
La vidéo était tournée à l'initiative des élèves, qu'au contraire, en fait, c'était elle qui m'avait demandé l'autorisation de me filmer. Du point de vue du droit à l'image, je ne voyais rien. Quant au devoir de réserve, il concerne l'expression d'opinion. Moi, je peux redire ce que j'ai dit dans le TikTok. J'ai dit « j'ai été absente au cours de ma grossesse et je n'ai pas été remplacée alors que mes élèves préparaient le bac de français ». Ce n'est pas une opinion, c'est un fait.
Un sentiment d'injustice partagé par les élèves venus en nombre soutenir leurs professeurs pour espérer peser dans la balance. Léa est élève en première.
Libérer nos professeurs, on a chanté « on est là », même si le rectorat veut pas, nous on est là. On criait, on tapait pour se faire entendre, pour les intimider.
Et malgré cela, les 4 professeurs sont ressortis avec un compte-rendu de l'entretien qui restera inscrit dans leur dossier administratif, de quoi possiblement les freiner dans leur carrière.
Merci Océane Zitouni. Place maintenant au choix culture de ce 18h. Bonsoir Mathieu Culon.
Bonsoir.
Comme chaque semaine, on passe en revue les titres, les albums les plus écoutés en France et dans le monde. On traverse une nouvelle fois la Manche ce soir, histoire de constater la puissance du rock 100% anglais.
Oui, alors que le top album est largement dominé par le rap en France, et bien en Angleterre, le rock fait de la résistance. La preuve, à la première place des charts, cette semaine, on retrouve une institution. On pourrait dire qu'il y a désormais le thé, le pub, le football et Liam Gallagher, l'ancien chanteur d'Oasis, qui domine le classement avec le guitariste des Stone Roses, John Squire, les deux artistes de Manchester qui sont deux légendes pour les Anglais. Ce titre illustre parfaitement l'alchimie entre les deux musiciens pour cet album commun.
Raise your hands, Liam Gallagher et John Squire, 100% Manchester. Donc on les retrouvera à Play le 2 avril prochain, Mathieu. Mais pour l'heure, eh bien on reste en Angleterre pour constater que le rock, décidément, est partout.
Oui, à la deuxième place, on retrouve Rod Stewart et Drew Hollands pour leur album de crooner au piano. En troisième position, le nouvel album solo du chanteur d'Iron Maiden, Bruce Dickinson. Et en quatrième position, Yard Act avec un nouvel album, Where My Utopia. C'est un joli succès pour cette formation de Leeds, très bon groupe de live qu'on avait découvert notamment au festival Beauregard, punk dans l'esprit avec du spoken word comme seuls les Britanniques savent le faire. C'est une belle découverte et ce morceau est le plus écouté sur les plateformes. Il s'appelle Dream Job, un morceau légèrement ironique. I place a bet on a game, knowing no one will score, and break a sweat watching the greats dragging their feet on the floor. Is it ambitiously weak to be proficiently poor and still smile when on trial?
Yard Act, quatrième du classement des charts anglais cette semaine au Cabaret Sauvage le 5 avril prochain à Villeurbanne-le-13 et puis un peu partout en Europe cet été. Merci Mathieu Culon, spécialiste musique à la rédaction de France Inter.
Et c'était le journal de Céline Asselot. Le temps.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros et des particuliers. Véhicules électriques, hybrides ou thermiques, Euromaster garantit votre mobilité et préserve votre budget.
Bonsoir Élodie Kellac.
Bonsoir à tous.
Demain, pas mal de nuages, demain matin, mais aussi de la douceur.
Oui, souvent 6 à 11 degrés hein, demain matin. Et puis, ce sera du gris du nord-ouest jusqu'à la Garonne et à l'ouest du Massif central avec quelques gouttes. Beaucoup de nuages et un peu de pluie aussi du nord-est au nord des Alpes. Entre les deux, de petites éclaircies, des brouillards pour le sud de la Garonne, mais du soleil en Méditerranée avec du vent.
Et l'après-midi, avec plus de soleil, surtout au sud?
Oui, il s'imposera sur la moitié sud. On aura de belles éclaircies aussi entre le nord de la Seine, la région parisienne, la Bourgogne. Encore quelques pluies de l'Alsace au Jura et un ciel toujours très encombré du nord-ouest au Limousin. La douceur, elle persistera avec 13 à 16 degrés au nord, 16 à 20 au sud, jusqu'à 20 à 23 degrés même près des Pyrénées et du Roussillon jusqu'au Var. Et puis dimanche, grande douceur, du soleil au sud, des nuages au nord et de la pluie du nord-ouest au nord de la Seine.
Élodie Calac.